chronique 1000 et une pages chaque semaine sur PFM 99.9. Frédéric partage avec nous, avec vous, ses précieux conseils de lecture. Frédéric, comme le petit Marcel, la chronique de cette semaine a un excellent goût de nostalgie et tu n'as utilisé ni une madeleine, ni une tasse de thé.
Oui Nico, tout est parti d'une très belle exposition réalisée pour les rendez-vous de la BD à Amiens, qui, sur le fond, Glénat, et il va être beaucoup question de cet éditeur dans cette chronique, ont choisi de présenter Mickey dans toutes ses dimensions, avec bien entendu des planches, des dessins, des films, des jouets, pour revenir aux origines, petit lapin d'ailleurs, hein, ce n'est pas forcément une souris. Tout a commencé donc par cette souris, ensuite très particulière, que l'on va retrouver dans ces volumes qui regroupent généralement 8-7 histoires. Dans le deuxième volume, parce qu'il y en a deux pour chacun des personnages, hein, qui sont parus, il y en aura probablement un nouveau pour chacun de ces personnages dans les mois à venir. Mais là, dans le deuxième tome, je dois dire sur Mickey qu'on balaye largement ce que Mickey devient lorsqu'il prend la casquette de Sherlock Holmes et sa loupe, et qu'il devient un détective absolument redoutable. C'est très intéressant de le voir aussi garder son talent, son humanité, si j'ose dire, pour une petite souris, mais il n'en manque pas, et de le voir aussi laisser, par exemple, Dingo, qui n'est pas spécialement le plus grand détective de la Terre, diriger l'une des enquêtes, parce qu'il veut aussi que Dingo puisse diriger une enquête. Le ton est très différent dans ces épisodes, parce que justement, il y a un choix éditorial qui est fait avec une volonté à chaque en tête d'histoire de nous raconter sur plusieurs paragraphes le contexte, comment cela évolue, l'importance qu'ont les auteurs. Évidemment, Paul Murray se met parmi les plus importants créateurs, dessinateurs de Disney, mais on voit un certain Carl Falberg qui lui est plutôt scénariste, il a travaillé chez Disney, hein, sur des films dans l'entreprise. Il vient là raconter des histoires avec des univers différents, un château importé d'Écosse, juste à côté de la ville où habite Mickey. On voit aussi des artistes européens, vénitiens en l'occurrence, Romano Scarpa, qui jouent du récit comme on joue du piano. Et puis on voit clairement les inspirations du côté de Doyle, d'Agatha Christie, de Hitchcock, différents plans cinématographiques dans ces histoires, et on le regarde, c'est certain, de façon bien différente que la façon dont on lisait beaucoup trop vite, enfant probablement, parce qu'on adorait ça. Mais retrouver par exemple dans l'une des histoires des planches en noir et blanc qui succèdent des planches couleur, avec notre cerveau qui sans doute colorait tout ça, c'est assez amusant de s'y retrouver ainsi. Il est certain qu'également l'évolution du personnage de l'autre côté de l'Atlantique, avec par exemple Egmont qui est le responsable danois de la licence et Byron Erickson qui va revenir un petit peu aux fondamentaux parce qu'on a tendance à avoir transformé Mickey en quelqu'un de trop performant, de trop, j'allais dire désagréable, parce que Sherlock Holmes peut être désagréable parfois, il faut être juste. Et donc, ce qui plaît au lecteur, quelque chose de plus faillible, quelque chose de plus sentimental, de plus touchant, eh bien on va aussi y rebasculer avec Disney qui demande à revenir parfois vers ces fameux fondamentaux de Murray. On a de façon concrète la volonté de, comment dirais-je, presque créer une école Disney. Et c'est vrai qu'à travers tous ces volumes, on les voit de façon évidente dessiné d'une certaine façon, même si il y a de grandes variations et des gros succès, y compris d'ailleurs parfois des plus gros succès de ce côté-ci de l'Atlantique que de l'autre côté, pour ce qui est des éditions papier, et c'est assez intéressant à regarder. Je pourrais vous faire la même chose avec Picsou, où grosso modo, on a une sorte de Bernard Arnault des canards, quelqu'un d'extrêmement riche, extrêmement radin, et de 1950 à 2000, on va se balader dans ses aventures. Je suis sûr que les auditrices et les auditeurs ont acheté un jour un Picsou magazine et ont lu ça à toute vitesse. Et bien voilà, là il y a le Donald, ses trois neveux, une paranoïa financière, des chasses au trésor, des aventures parfaitement idiotes. Et puis Karl Barks, pardon, créateur, volontairement quelqu'un qui, dans l'édition, veut faire de ce héros quelqu'un de très très particulier. Et il est certain que les plus grands sont là aussi, Scarpa, Daniel Branca, au rendez-vous, parce que l'édition est très très bien faite. Elle est d'autant mieux faite que on trouve de la qualité, un format généreux, des reproductions impeccables et un très assez précis, comme je le disais, d'une certaine façon, cette école Disney que l'on voit se décliner avec aujourd'hui encore d'autres artistes. Je pense à Jules qui a fait un Picsou et les Bitcoins, chez Glénat et qui a dit qu'il avait été très surpris de l'extrême liberté que Disney lui avait laissée pour créer tout ça, pour inventer tout ça. Et bien cette liberté, j'allais dire que dans ces âges d'or, on la retrouve à travers le temps, dans les choix qui sont faits, des choix vraiment très divers et bien évidemment, comme tu le disais, dans la nostalgie que cela provoque aussi, dans une autre tranche d'âge pour les lectrices et les lecteurs. Les âges d'or de Mickey, de Donald et de Picsou, deux volumes parus pour chacun de ces personnages, tout ça est publié chez Glénat. Voilà pour cette semaine, Nico.
Merci Frédéric. Retrouvez cette chronique 1001 pages sur radiopfm.com et chaque semaine sur les ondes libres et sans pub de PFM 999.